carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, bienvenue dans cette émission où j'ai le plaisir d'accueillir Paul Belmondo, bonjour,
bonjour,
petit-fils du sculpteur et académicien du même nom, et Emmanuel Bréon, fondateur du musée Paul Belmondo qui se situe à Boulogne et qui a ouvert en septembre 2010, donc nous fêtons la première année.
Oui, tout à fait,
voilà.
Bonjour.
Bonjour, merci à vous deux d'être venus au studio de Canal Académie. Alors, vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui d'un artiste éminent de l'Académie des Beaux-Arts, élu en 1960, un sculpteur qui possède à présent son musée. Bref, rappel, Paul Belmondo naît à Alger en 1898, il disparaît à Paris en 1982. Sculpteur et graveur en médailles, il réalise de nombreuses médailles d'académiciens, dont celle de Maurice Druon, mais il y en a bien d'autres. Celle de Maurice Druon se situe au musée de Boulogne, je crois, monsieur Bréon.
Oui, tout à fait. On a réalisé d'ailleurs au musée un trésor, en quelque sorte, puisque au dernier étage, on découvre toutes les médailles de Paul Belmondo qui sont présentées, éclairées, dans une atmosphère assez intime, et on peut voir l'ensemble des...
Effectivement, des... Il y en a énormément. Un énorme travail, hein. On peut vraiment penser que Paul Belmondo a eu énormément d'œuvres, a sculpté énormément, donc on va y revenir dans un instant. Donc, d'origine italienne, il commence à sculpter à 13 ans, il fait ses études à Alger où il entre à l'école des Beaux-Arts. Grâce à une bourse du gouvernement de l'Algérie, il poursuit ses études à Paris et puis tout s'enchaîne. Les prix notamment, le prix Blumenthal en 1926, grand prix artistique de l'Algérie en 1932, grand prix de la ville de Paris en 1936. Parmi ses œuvres, on en note beaucoup, et notamment en sculpture Le Baiser, une sculpture au relief que l'on trouve dans l'escalier d'honneur de la mairie du 20e arrondissement de Paris. Également une copie de l'allégorie de la danse de Jean-Baptiste Carpeau sur la façade de l'Opéra de Paris. Très très belle sculpture. On parle un instant du musée Paul Belmondo. Vous êtes donc Emmanuel Bréon à l'origine de ce projet. J'encourage d'ailleurs nos auditeurs internautes à aller le visiter parce qu'il est beau. Les architectes ont fait un travail époustouflant à base de laque noire et blanche. C'est très moderne. Ça met en valeur les sculptures. Alors, comment avez-vous procédé? Est-ce que vous pourriez nous parler de la scénographie et de ce qu'on trouve de vraiment particulier?
Dans ce musée, j'avais fait visiter le bâtiment à Jean-Paul Belmondo, puisqu'il n'était pas loin, au bois de Boulogne, à se promener. Je lui ai dit, écoutez, il y a là un bâtiment qui pourrait faire office de musée, mais j'en parle pas au maire de l'époque, au maire de Boulogne, si jamais vous n'avez pas le feeling avec le bâtiment. Et en fait, donc, je l'ai emmené devant ce bâtiment, qui était quand même assez détérioré, pas extérieurement, mais à l'intérieur, tout était à refaire. Et puis, je crois qu'il a eu un premier choc, enfin une envie. C'est tout près de Roland-Garros, c'est quand même dans un quartier agréable. Il y a le métro Jean Jaurès qui dessert facilement, puis beaucoup de bus, le 52. Donc c'est un endroit tout à fait accessible pour un Parisien, par exemple. Et c'est un bâtiment qu'on pourrait considérer comme un peu néo-18e, avec des mascarons. Et une partie de l'œuvre de Paul Belmondo correspondait bien à cet esprit classique. Et donc je crois que c'était l'endroit rêvé pour le faire. Alors, on a fait réaliser un concours. Paul Belmondo, ici présent, était membre du jury. Et donc, il a amené sa part de modernité, de jeunesse au projet. Et on s'est mis tous d'accord, finalement, sur une équipe assez jeune. Il y avait 5 candidats retenus. Et puis, c'est eux qui ont gagné. Et moi, j'avais donné un petit peu comme indication l'esprit d'une maison musée qui est à Londres, qui est le musée Sir John Sloane, qui est une maison d'un sculpteur-architecte qui a mis toute sa collection dans cet espace avec des niches un peu partout. Enfin, vous voyez, c'est des surprises à chaque fois qu'on se promène dans cette maison. Karine Chartier et Thomas Corbasson, qui sont les deux architectes lauréats, avaient mis une photo de ce musée dans leur programme. Et donc, je me suis dit, là, il y a vraiment une connexion. Ça va être assez sympathique de travailler avec eux. Alors après, on peut s'engueuler avec les architectes parce qu'ils allaient un peu trop loin, ou je sais qu'on a montré à Jean-Paul Belmondo aussi quelques travaux en avance, les dessins qui étaient rétro-éclairés. Alors on leur disait, oui, non, mais oh, pour la conservation, c'est pas tout à fait extraordinaire. Mais finalement, c'est assez bien entendu. Et puis le projet, c'était, parce que comme Paul nous en parlera sans doute, cette ambiance d'atelier est importante. Et je voulais qu'on retrouve aussi, même si c'était pas sur le lieu exact, puisque l'atelier qu'on a déménagé était à Denfert-Rochereau, retrouver déjà l'atelier et puis l'ambiance d'un atelier et qu'on puisse montrer l'ensemble de l'œuvre. Souvent dans un musée, on voit qu'une partie de l'œuvre. Et là, l'ensemble de l'œuvre de Paul Belmondo est présenté dans ce musée. Donc, c'est une sorte de grande promenade. Et alors, une promenade qui se fait à la fois sur le mode, parce que le musée est partagé en deux, avec une partie très puriste, où les œuvres sont en majesté, soit dans des niches, soit au milieu des salles, dans un univers très blanc. Et puis, quand on passe derrière, par la montée des escaliers ou par les ascenseurs, parce que c'est un musée qui est accessible par tous, Jean-Paul Belmondo a été très sensible au problème du handicap, donc voilà, tous les étages sont accessibles. En plus, il y a une visite tactile pour les non-voyants. Tout est organisé autour de ça. Donc cette partie qui sont en fait les coulisses, hein, les réserves, un peu comme dans un théâtre aussi, qui est un univers proche de la famille Belmondo. Quand on passe derrière, eh ben on a tout l'ensemble, tout le reste des œuvres qu'on peut découvrir, même si elles sont pas en majesté, elles sont là, très intrigantes parce qu'elles sont plutôt en masse et ça donne une ambiance tout à fait extraordinaire.
Paul Belmondo, à quel niveau avez-vous influencé ce travail ? Est-ce que vous étiez investi ? Est-ce que ça vous tenait à cœur ?
Comme le dit Emmanuel, moi j'étais présent au moment du choix des architectes. Et c'est vrai que ce projet de mettre un peu de modernisme sur un aspect classique des œuvres de mon grand-père, c'était pour moi une chose très importante. Et en fait, ça donnait un rendu qui est vraiment très joli au musée. Mais après, non, moi, mon influence, elle était limitée. C'était juste sur ça. Mais je crois que toute la famille a participé, que ce soit mon père, que ce soit mon oncle, bien sûr, Emmanuel, énormément. Tout le monde a participé parce qu'on connaissait tous, bien sûr, très, très bien mon grand-père et essayer de suivre au maximum que ce lieu, en tout cas, aurait pu lui plaire.
Vous avez connu votre grand-père, vous avez même peut-être apprécié ses œuvres. Vous pourriez nous dire un petit mot sur lui ?
Bien sûr, je l'ai très bien connu. J'ai eu cette chance de partager énormément de moments avec lui. D'abord parce que on avait des déjeuners familiaux régulièrement, quasiment tous les dimanches, en tout cas très souvent, des vacances, des choses comme ça. Et la particularité de mon grand-père, c'est que c'était quelqu'un qui travaillait énormément et qui travaillait tout le temps. Donc en fait, que ça soit au restaurant, que ça soit à la maison, que ça soit en vacances, c'était quelqu'un qui était toujours en train de dessiner, en train de croquer systématiquement. Et quand il partait en vacances, il emmenait avec lui, en tout cas à sa maison de campagne, il emmenait des œuvres sur lesquelles il terminait, donc des médailles, des sculptures, des bustes, des choses comme ça. Plus l'atelier, bien sûr, d'enfer, où il allait 7 jours sur 7, puisqu'il n'avait pas de jour de repos. Et en tout cas, souvent, ses après-midi de repos étaient consacrés, éventuellement, à aller faire un tour au musée du Louvre. Donc c'est quelqu'un qui avait soif d'apprendre, en tout cas d'évoluer. Et voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai vraiment très très bien connu.
Est-ce qu'il vous a enseigné une sorte de maxime de vie comme ça ? Vous semblez avoir été proche de lui ? Est-ce qu'il vous a donné une sorte de leçon ? Par exemple, il faut travailler pour réussir ?
Indirectement, oui. C'est pas quelqu'un qui nous disait « il faut travailler pour réussir ». Il disait pas « regardez, moi je travaille tous les jours ». Non, il parlait pas comme ça. C'est quelqu'un qui le faisait. Et je pense que plus tard, que ça soit mon père ou que ça soit moi, c'est quelque chose où on s'en rend compte. Je veux dire que, bien sûr, très jeune, à cette époque-là, au moment où j'étais adolescent, c'est des choses qu'on ne perçoit pas forcément et qu'on perçoit en vieillissant et on se rend compte, en fait, voilà, il y avait un message qui était là, qui était, bah, justement, il faut travailler pour réussir dans sa vie. Et surtout, si on a une passion, il faut aller jusqu'au bout. Donc lui était vraiment passionné par son métier. Il était passionné par le travail des autres aussi, puisqu'il allait en permanence le découvrir. Il était passionné aussi par la langue française, puisque c'est quelqu'un qui me rappelle de ce dictionnaire Larousse qui était à la maison, donc ce dictionnaire avec une couverture grise, donc bon, c'était les vieux Larousse, qui était à côté du téléphone et régulièrement il le prenait, il apprenait des mots et voilà. Donc c'est quelqu'un qui, comme ça, il nous a transmis des choses et qu'on se souvient, qu'on retient et que j'essaye d'appliquer.
Un grand monsieur, vous alliez le voir dans son atelier à Denfert-Rochereau ? Souvent ?
Oui, assez souvent. Alors, en plus, il y a eu une période où, quand mon père a déménagé, on habitait à un moment donné en dehors de Paris, à Saint-Maurice, et puis il a décidé de revenir habiter à Paris, donc pas loin d'ici. Et il y a eu donc une période où il y a eu des travaux, et donc on a habité au-dessus de chez mes grands-parents, à Denfert-Rochereau, donc pendant quasiment un an. Donc il y a vraiment eu une période de ma vie où j'allais régulièrement à l'atelier avec lui. Alors il a essayé, bien sûr, deux choses. Une, il a essayé de me faire dessiner et
sculpter. De vous convertir, j'allais vous demander.
Convertir. Donc j'étais très attiré par ça, mais je n'avais aucun talent. Donc, ça a été assez limité, mais j'en garde en tout cas des bons souvenirs. Il m'avait donné des outils, il me donnait de la terre pour travailler avec lui pendant que lui, il sculptait. Et pareil, lorsqu'on allait à la maison de campagne, même chose, il me donnait quelques fusains, un peu de peinture à l'eau et de faire comme lui, de dessiner à côté de lui. Donc, ça, c'est des choses. Et la deuxième chose où là, j'ai un vrai regret, qui était celle de faire mon buste. Donc, il avait commencé à le faire. Et malheureusement, j'étais à un âge où on perçoit pas ça, la chance qu'on a d'avoir un grand-père comme ça. Donc j'y allais de plus en plus espacé et je venais avec moins de temps aussi. Donc voilà, et un jour, bon, le buste est revenu à une boule de terre et voilà. Donc ça, c'est un regret, mais bon, c'est,
les souvenirs
ça reste,
restent.
Par contre, les souvenirs restent et c'est peut-être le plus important.
Vous me disiez également que vous alliez le voir à l'Académie où il possédait un atelier, où il avait l'occasion de sculpter ici même, donc au sein de l'Institut de France. Pourriez-nous raconter, l'atelier était grand ?
Alors, on voit tout grand quand on est petit, hein. Donc je ne sais pas s'il était grand, mais je pense qu'il ne devait pas être très grand, parce que quand je suis revenu après, quand je voyais l'atelier d'enfer, il me semblait beaucoup plus grand que plus tard. Mais c'est
pourtant,
vrai
il y a de la place ici.
Oui, non, il y a de la place. Bien sûr, il venait beaucoup moins souvent ici que ce qu'il n'allait à d'enfer, mais de temps en temps, il venait ici. Et je me souviens aussi que des fois, ça lui arrivait, même à l'âge où il avait, de revenir à pied d'ici jusqu'à d'enfer au chaud. C'est quelque chose qu'il faisait également régulièrement. C'était quelqu'un, quasiment jusqu'à la fin de sa vie, avait une activité physique, ne serait-ce que même l'immeuble où habitaient mes grands-parents. Il y avait 5 étages, il n'y avait pas d'ascenseur. Et il faut savoir qu'il venait déjeuner chez lui tous les jours. Donc, il partait le matin, il allait à l'atelier d'enfer, il revenait déjeuner. Donc, il remontait les étages, il retournait à son atelier. De temps en temps, il venait ici. De temps en temps, il allait à d'enfer. Et même chose, voilà, il remontait. Donc, c'était quelqu'un qui avait une activité quand même assez physique. Et voilà, donc, c'était quelqu'un de très fort.
Emmanuel Bréhan, vous pourriez nous parler des médailles que Paul Belmondo a réalisées de l'Académie, de nombreux académiciens. Est-ce qu'il vous en vient quelques noms en tête ?
Vous me posez une colle parce qu'ils ne seront peut-être pas membres de l'Institut. Il y a Maurice Genevoix.
Si, membre voilà, de l'Institut.
Très bien.
Tout à fait, bien, bien joué.
Donc Maurice Druon, qu'on a déjà cité tout à l'heure, mais sinon beaucoup d'écrivains, Saint-Exupéry. Il a fait le couple Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. Le pape Jean-Paul II, qui n'est pas un académicien. Et donc, oui, la Monnaie de Paris lui a beaucoup commandé. Alors, il y a des médailles de commande, il y a des médailles qu'il a fait tout naturellement aussi, comme ça, par goût. Et ça, c'est une de ses vraies spécialités. Et ce qui est assez extraordinaire chez Paul Belmondo, c'est qu'il pouvait aller du monumental au tout petit à la médaille.
Tout à fait.
Alors, la médaille, c'est d'abord en plâtre. Hein, c'est une sorte de disque en plâtre qui fait à peu près 30 cm de large. Puis après, on la réduit. Donc, on travaille quand même un peu plus large. Il savait très bien occuper l'espace d'une médaille, ce qui est très difficile parce qu'une médaille, ça peut être complètement raté. Si vous avez... Là, il s'inscrivait dans la circonférence d'une médaille et c'était un vrai travail et une vraie qualité chez lui.
Et au musée, nous trouvons également des dessins et des aquarelles très belles.
Oui, alors ça, c'est...
Un artiste complet.
Ah, c'est un artiste complet. Sa journée était partagée en deux. Comme nous a dit Paul, il quittait son appartement près de la place d'Enfer Rochereau. Et puis, il rejoignait l'atelier donc qui était d'anciennes écuries, une sorte de tournebride qui était à la sortie de Paris, mais dans les jardins de l'Observatoire, où il y avait quelques-uns de ses collègues. Il y avait Félix Joffre, il y avait André Tondu aussi, certains qui étaient académiciens.
Il était ami avec Paul Landowski, n'est-ce pas ?
Oui, ils se connaissaient. Alors, je ne sais pas s'ils ont été
grand
amis.
Grand sculpteur également.
Oui, grand sculpteur. Alors, il y avait souvent des rivalités entre les sculpteurs. Donc, moi, j'en ai connu quand même quelques-uns de vivants, 5 ou 6. J'ai connu beaucoup les veuves d'artistes et souvent, ils me disaient « Oh là là, par exemple, Paul Landowski, il trustait les commandes ou des choses comme ça. » Donc voilà, entre sculpteurs, ça pouvait... Mais Paul Belmondo, ce n'était pas son caractère. C'est quelqu'un qui était toujours affable, qui recevait aussi bien les grands que les tout-petits, les étudiants. D'ailleurs, ça nuisait quelquefois son travail parce qu'il passait beaucoup de temps à parler. Mais il a instruit, il a été professeur aux Beaux-Arts et donc...
Très érudit.
Très érudit et c'est quelqu'un qui transmettait. Donc ça, c'est très important. Et tout ce qu'il a transmis à sa famille, finalement, c'est le travail, toujours le travail. Mmh. Il avait écrit, d'ailleurs, dans son atelier, une phrase qui avait été prononcée par Despio. Tu dessines, ça y est. Si ça n'y est pas, tu redessines encore. Et donc ça, c'était au crayon sur le mur de son atelier. Et c'est un peu la ténacité qui, je pense, caractérise l'ensemble des membres de la famille Belmondo. Et je crois que c'était un exemple comme ça. Il n'avait pas besoin de parler. Je pense que tous les membres de la famille le voyaient travailler. Et puis, forcément, ça force le respect, quoi.
Paul Belmondo, est-ce qu'il parlait beaucoup de l'Académie ? Est-ce qu'être membre de l'Institut était pour lui un honneur ?
Je pense qu'il était très fier d'être membre de l'Académie. Mais comme disait Emmanuel, ce n'était pas du tout quelqu'un qui se mettait en avant. C'était quelqu'un de très discret. Vraiment, toujours, voilà. Donc c'est... En tout cas, il n'en parlait pas. Mais je suis sûr qu'il en était très fier. Mais voilà, donc c'était pas du tout son trait de caractère de dire, voilà, je suis membre de l'Académie ou j'ai été professeur des Beaux-Arts ou j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Non, c'était quelqu'un qui avait un amour de son travail, de ce qu'il faisait avant tout et pas tellement de ce que ça pouvait lui rapporter en termes de notoriété ou d'image. Donc,
c'est un homme qui n'exposait pas beaucoup, par exemple. C'est curieux, hein, mais... Il y a peu d'expos personnels de Paul Belmondo. Il faut attendre juste avant son décès, quoi, la Monnaie de Paris.
97, non.
Ouais, pour qu'il y ait une expo rétrospective, mais il n'en a jamais fait de son vivant. Hein. On venait le voir à l'atelier, on lui passait une commande, mais c'est vrai qu'il n'allait pas à la recherche des choses. Puis c'était quelqu'un de très humble, par exemple, quand il fait la copie de Carpo, parce que c'est une œuvre qui était très abîmée sur la façade de l'opéra, et maintenant qu'on peut voir dans la nef d'Orsay, ben c'est quand même très humble de s'oublier pour se mettre à la place de Carpo et rendre le génie de Carpo et de s'effacer devant un autre grand sculpteur. Donc je pense que c'est vraiment un trait profond de son caractère.
À moins que vous ayez un petit mot à rajouter plus personnel, quelle est l'œuvre que vous chérissez le plus de son parcours ? Est-ce qu'il y a une sculpture, une aquarelle que vous gardez en mémoire ?
Alors, il y a plusieurs choses en fait. Il y a des sculptures affectives. Bien sûr, le buste de mon père enfant, c'est quelque chose pour lequel moi j'ai une certaine affection. Parce que bon, un, c'est le travail de mon grand-père et de l'autre côté, c'est mon père. Donc c'est quelque chose de très symbolique. Mais à côté de ça, c'est sûr que j'aime beaucoup la Jeannette aussi. C'est une sculpture pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Il y a des bas-reliefs aussi qu'il a fait qui sont très beaux. Puis après, il y a toutes les sanguines. Et après, dans les dessins, il y a une chose pour laquelle moi j'ai quand même une sensibilité, c'est quand il mélangeait justement l'aquarelle et l'encre de Chine en noir et blanc, voilà. Et puis il mettait juste deux, trois petits traits de couleur dedans. Et il a fait quelques tableaux comme ça qui sont vraiment très, très beaux, très purs. Et voilà, c'est des choses que moi j'appréciais beaucoup. Puis après, bon, les médailles, voilà. Donc, mais juste pour ajouter comme ça l'anecdote, c'est avec lui justement, il a fait, je crois que c'est la médaille de Pompidou. Et j'ai eu la chance avec lui d'aller à l'Élysée à cette époque-là. Et donc voilà, donc j'étais avec lui, il venait présenter son travail au président. Et voilà, donc,
vous aviez quel âge ?
Je devais avoir moins de 10 ans, donc ça, c'est sûr.
Grand souvenir.
Donc, c'est un grand souvenir. Donc, voilà, on a été avec lui. Et voilà,
donc, vous avez vu votre grand-père parler avec le président.
Alors, j'ai pas vu parce qu'on n'a pas pu assister à la rencontre avec le président. Mais donc, on a attendu dans un salon. Mais voilà, donc on est rentré avec lui dans l'Élysée. Il a présenté son travail. Il est venu, puis on est reparti. Donc, voilà, donc c'est des petits souvenirs qui restent.
Qui marquent.
Qui marquent. Mais pour revenir à ce que disait Emmanuel, voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait... De Gaulle, qui a fait plein de plein d'œuvres. Donc voilà, c'était. Mais en même temps, voilà, quelqu'un de très discret. Donc il sait bien qu'il y ait ce musée pour permettre aux gens de découvrir tout ça et de voir justement toutes les œuvres qu'il a fait.
Votre œuvre préférée, Emmanuel ?
Aïe aïe. Eh ben pas mal, pas mal d'œuvres préférées. C'était comme il a réussi dans la médaille, il a aussi réussi dans le bas-relief, mais ça on connaît moins bien, sur la façade de Chaillot ou même à Alger, où le théâtre d'Alger a un très beau bas-relief qu'on peut voir en maquette au musée, qui est magnifique. Il y a aussi une petite maquette en plâtre de l'Apollon pour le lycée Malherbe de Caen, en Normandie. Et alors ça, c'est la petite esquisse en plâtre où il y a déjà tout. Ça, c'est extraordinaire parce que hop, il modèle et il y a déjà ce qu'on appelle la première idée, quoi, la première pensée. Et alors, nombre de dessins, comme Paul, ses dessins à l'encre, où il est comme Tiepolo, hein, il a regardé, c'est une goutte d'eau, puis il fait couler l'encre sur... Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est d'une technicité formidable, puis on voit pas que c'est technique, c'est superbe. Et bien sûr, les portraits d'enfants. Il y a toute une série, il y a même une salle réservée aux portraits d'enfants. On voit Muriel, la sœur de Jean-Paul et d'Alain. Et puis, évidemment, Jean-Paul enfant, je trouve ça un chef-d'œuvre.
Beaucoup d'humanité. Hein,
beaucoup d'humanité. Et puis là, le petit Jean-Paul, on sent toute la vivacité qu'il va produire par la suite. Il est frémissant. C'est comme un Donatello. Quoi. C'est beau. Enfin, ça, c'est un... Les sculpteurs, finalement, que ce soit Rude, Rodin, on peut citer 5-6 œuvres, pas plus. Et je pense que là, pour Paul Belmondo, on pourrait citer comme très grand chef-d'œuvre le buste de son fils.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission pour nous parler de Paul Belmondo, le sculpteur né à Alger en 1898 et membre de l'Institut depuis 1960, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir au musée de Boulogne qui porte son nom. Et à très bientôt sur canalacademy.com.